La vie avant tout, une chronique d'écologie intégrale en compagnie de Dominique Vachald et de ses invités.
Chers auditeurs, bonjour. Bonjour Adeline.
Bonjour Dominique. Bonjour à tous.
Donc aujourd'hui, vous connaissez Adeline hein, qui intervient souvent dans nos émissions. Et on la remercie d'ailleurs d'intervenir aussi souvent. On tient à remercier aussi l'ensemble des témoignages que l'on a. Donc, merci beaucoup. Donc, plusieurs personnes qui nous appellent pour poser des questions. Et donc, ça, c'est très, très bien. Donc, nos dernières émissions étaient consacrées à l'Église verte. Donc, on a eu pas mal d'appels autour de l'Église verte. Donc, je vous rappelle hein, que moi, je ne prône pas les démarches qui veulent juste obtenir une conformité. Essayez plutôt de créer d'abord un groupe de la convivialité et vous irez beaucoup plus loin que de la conformité. Donc, ne partez pas critère par critère en disant « tiens, on va respecter critère par critère ». C'est bien, mais ça ne dure pas de faire ça. Il faut vraiment partir d'une logique dans la paroisse. On se regroupe et on dit « tiens, on a envie de mettre en place une démarche église verte ». On fait un petit tour de table. Et on dit, bah tiens, par quoi on pourrait commencer? Et déjà, quand vous aurez fait tout ce qui sera né du tour de table, ça sera déjà très bien. Et moi, je vous invite à faire comme ça. Alors, un, parce que c'est un bon moyen de démarrer. Et deux, parce que vous allez créer de l'intérêt, du partage. Les gens vont dire, ah bah tiens, finalement, on est en train de faire ce que moi, j'avais proposé. Et les gens vont s'impliquer en faisant ça. Si vous leur donnez des critères et vous leur dites, essayez d'appliquer les critères, vous allez faire de l'Église verte une démarche extérieure à la communauté. Il ne faut surtout pas faire ça. Donc, commencez par une feuille blanche, vous faites un petit tour de table, et tiens, par quoi on pourrait commencer? Donc, vous avez bien évidemment hein, les évidents sur l'énergie, sur l'eau, sur les déchets, sur les produits d'entretien, sur les produits d'accueil, donc tout ce qu'on peut mettre dans l'Église, sur le transport, donc aborder les thématiques qu'on veut, mais il faut que ça vienne de nous, d'accord? Et vous verrez que par l'intelligence collective, bah, petit à petit, tous les critères de l'Église verte, vous allez les trouver par vous-même. Il n'y a rien de, y a rien d'exceptionnel, donc, mais il vaut mieux que ça parte de vous-même, vraiment, si vous voulez aller loin. Donc, bientôt, on accueillera quelqu'un qui a déjà mis en place l'Église verte. Moi, je vais bientôt le mettre en place au sein de ma paroisse. Et j'ai suivi aussi la formation de Laudato Si. Je suis ambassadeur Laudato Si et aussi ambassadeur Église verte. Donc, je ne dis pas du tout hein, qu'il ne faut pas utiliser Église verte comme critère. Je dis juste qu'il ne faut pas que ça soit l'objectif final. L'objectif final, c'est qu'on progresse tous ensemble dans une approche conviviale, de partage et qu'on y aille tous ensemble. Et c'est aussi important de y aller tous ensemble que d'être conforme. Donc, c'est surtout ça que je dis. Par contre, bien évidemment, celui qui est en tête du projet, ben de temps en temps, il peut aller jeter un petit coup d'œil sur les critères et dire « tiens, je pourrais proposer ça et ça, ça me permettrait d'évoluer ». Si on prend les critères comme base de réflexion, c'est très très bien. Si on prend les critères comme objectif et finalité, là, c'est moins bien et ce sera moins durable. Voilà, je faisais ce petit parenthèse, pardon Adeline, c'est que comme on avait eu des questions sur ce sujet-là, donc, je voulais répondre à nos auditeurs. Donc, l'Église verte, c'est très bien comme outil et non pas comme finalité en tant que telle. Donc, merci Adeline. On va élargir un petit peu le sujet aujourd'hui avec toi et avec grand plaisir. Donc, je t'avais demandé de préparer un petit peu. Je sais que tu le fais. Donc, merci. Merci beaucoup d'avance, Adeline.
Oui, alors Dominique, je voudrais simplement vous faire part d'une réflexion en m'appuyant pour commencer sur les paroles du Père François Dominique lors d'une émission précédente. Il nous a dit dans cette émission, je m'en souviens bien, les moyens de respect et d'écologie que l'on met en place sont aussi des moyens pour vivre davantage la communion entre nous. Alors moi, je trouve cette réflexion particulièrement juste, hein, Et moi qui m'investis de plus en plus autour de la vie de l'Église dans mon village, en essayant à partir de la foi d'aller vers la communion et l'échange, eh bien, je me rends compte, tant nous avons perdu hein, le sens des vraies choses, le sens des choses porteuses, combien l'écologie intégrale est un vecteur effectivement de communion. Et si l'Église joue et doit jouer un rôle hein, dans cette démarche, hein, tu nous le dis souvent toi-même, Dominique, la foi est un excellent vecteur d'amour, tu n'arrêtes pas de le répéter, d'adhésion, d'union, de propagation de beauté, de paix, enfin voilà, l'Évangile aussi est une vraie lumière. Et moi, personnellement, je pense qu'il ne faut pas non plus négliger ce que les coutumes, ce que les pratiques sociales, ce que la culture, ce que l'identité d'un lieu, l'âme d'un pays apporte à l'écologie intégrale et dont le rôle est pour moi tout aussi important et tout aussi primordial que celui du message de l'Église. Et pour aller plus loin, et si on se réfère au dictionnaire hein, français, en reprenant un petit peu le terme intégral, eh bien, on se rend compte que la signification est la suivante. Intégrale signifie qui fait l'objet d'aucune diminution et d'aucune restriction. Et parmi les synonymes, on retrouve les termes intégrants, les termes intégration et les termes intégrés. Et finalement, hein, si l'on approfondit davantage, eh bien, le terme intégral, eu égard à cette définition que je viens de vous donner, eh bien, elle s'adresse, je pense, à la dignité de chacun. Et pratiquer l'écologie intégrale, signifie, à mon sens, mettre tout en œuvre pour que la dignité de tous et de chacun soit respectée. Alors, comment les sociétés, peuvent-elles, agir, hein, pour être intégrantes et respecter la dignité de l'homme? C'est bien évidemment toute la question. Et je pense que la première chose pour arriver à ceci, c'est la reconnaissance de chacun dans ce qu'il est et dans ce qu'il a construit, c'est-à-dire finalement la reconnaissance dans son identité. Et nous qui sommes insulaires, hein, nous savons combien il est primordial que les particularismes, hein, soient pris en compte et puissent s'exprimer pleinement. Et je pense aussi que tout développement social, toute avancée pour le bien commun, toute entreprise écologique, environnementale, climatique, etc., ne peut pas se faire sans tenir compte des spécificités des endroits concernés et des gens qui peuplent ces lieux. Et donc, au nom, hein, au nom de cette écologie intégrale et au nom de l'amour qu'il apporte, ne pas oublier d'où viennent les gens, ce qu'ils sont avec leur histoire. Et je crois que tant que l'écologie intégrale n'aura pas admis l'autre dans sa différence, tant qu'elle n'aura pas mis tout simplement l'autre dans sa démarche, eh bien, elle ne pourra pas assurer pleinement sa mission. Sans le respect de l'autre, sans le respect de son pays, de sa culture, l'écologie intégrale, à mon sens, n'en est pas une. Et parce que chaque homme, en fait, appartient à une culture, l'homme ne naît pas seul, il naît dans une culture, dans un endroit particulier, et il porte en lui une sorte d'ADN, qui doit s'exprimer. Et je pense que l'écologie intégrale demande vraiment à aimer véritablement et à rejoindre l'autre dans ce qu'il est. D'ailleurs, le pape François, quand il est venu à Marseille, l'a bien précisé à nouveau. Accueillir les migrants, nous a-t-il dit, c'est fabuleux, c'est très très bien, mais leur permettre de vivre dignement chez eux, eh bien, c'est encore mieux. Hein, voilà. Alors, dans la continuité de ce que je viens de vous dire, je voudrais vous rappeler la définition de développement intégral donnée par Paul VI et qui a été initiée dans une encyclique qui s'intitulait Populorum Progressio et qui est paru il y a plus de 50 ans et dont je pense Laudato si est une continuité revisitée. Et d'ailleurs, le pape François a dit à ce sujet, et je le cite, ce fut lui, en parlant donc de Paul VI, qui a précisé en détail dans cette encyclique la signification du développement intégral et qui a proposé la formule suivante, développement de chaque homme et de tout homme. Voilà, développement de chaque homme, de tout homme et de tout l'homme. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus juste que cette définition. Et si le développement de chaque homme et de tout homme passe par le développement de sa personnalité, de son tempérament, il passe aussi par l'expression de sa culture. Et d'ailleurs, voici d'ailleurs enfin ce que dit encore notre pape hein, à propos du développement intégral. Il est nécessaire d'intégrer la dimension individuelle et celle communautaire. Il est vrai que nous sommes les enfants d'une culture. Dans Laudato si, il rajoute d'ailleurs un chapitre hein, qui est intitulé Écologie culturelle hein, et à propos duquel on peut lire, l'écologie intégrale exige qu'on fasse attention aux cultures locales. C'est la culture non seulement dans le sens des monuments du passé, mais surtout dans son sens vivant, dynamique et participatif qui ne peut pas être exclu lorsqu'on repense la relation de l'être humain avec l'environnement. La disparition d'une culture peut être aussi grave ou plus grave que la disparition d'une espèce animale ou végétale. Et l'imposition d'un style de vie hégémonique lié à un mode de production peut être autant nuisible que l'altération des écosystèmes. Voilà, donc autant vous dire à quel point le respect de la culture est nécessaire pour arriver à l'écologie intégrale. Et pour illustrer mes propos, je voudrais citer deux exemples concrets de pratiques identitaires donc, qui jouent un rôle fondamental dans l'écologie intégrale et dans son développement. Le premier exemple, je le prendrai, c'est un exemple qui vient de chez nous, je vous parlerai des confréries en Corse, qui ont non seulement un rôle de transmission de la foi, hein, mais également un rôle social très, 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 très évident. Il faut rappeler que les confréries sont des associations de laïcs au service de l'Église. Il en existe plusieurs, hein, comme vous le savez chez nous en Corse, mais elles se retrouvent tout autour d'un objectif commun, qui est la défense d'une société idéale et égalitaire. Et les confréries suivent en fait les trois vertus théologales, hein, qui sont la foi, la charité et l'espérance. La mission principale des confrères corses est la pratique de la foi et de la liturgie. Et cet engagement s'exprime à travers la prière, le rassemblement, le chant, les processions, ce qui contribue et vraiment, vraiment à fédérer. Donc ça, c'est la première mission des confréries. La deuxième mission des confréries, c'est la charité. Il faut savoir qu'aux origines des confréries corses, les confréries devaient se tenir, enfin, venir en aide en fait aux plus démunis et aux malades. Et aujourd'hui, cette dimension, bien évidemment, elle disparaît progressivement, mais au profit d'actions d'intégration et de maintien du lien social. Ce sont des actions de solidarité, d'ailleurs, et d'entraide qui sont mises en place avec la distribution de repas, du soutien scolaire, de l'aide aussi apportée aux adolescents en difficulté, des collectes diverses, etc. Je sais par exemple dernièrement que notre évêque a réuni les confréries à Corte et que à cette occasion il y a eu une grande démarche de solidarité à la faculté. Et à Saint-Florent aussi dernièrement, les confrères se sont beaucoup investis. La confrérie de Saint-Florent s'est beaucoup investie pour venir en aide à 5 familles en difficulté. Voilà. Donc oui, donc les pratiques d'un endroit, les cultures, la culture, ça aussi c'est très très important à maintenir pour que l'écologie intégrale puisse s'exprimer pleinement. La troisième, donc je vous ai parlé des deux missions, donc des deux missions des confrères. La troisième mission est aussi hein, donc une mission sociale hein, qui est celle de l'accompagnement aux morts. Et donc elle se traduit par l'aide aux mourants lors des dernières volontés et aussi par le soutien des familles sur le chemin du deuil. Hein, voilà. Donc je pense que les confréries, enfin, en fait, n'ont pas uniquement un rôle majeur dans le maintien et la propagation du rôle polyphonique. Hein, et je pense ne pas me tromper quand je dis que le chant des confrères corses, finalement, est une manifestation artistique de la foi et le témoin de la défense d'un peuple pour sa langue et un lien autour de la foi qui unit et qui rassemble les hommes. Voilà. Le chant sacré, hein, que pratiquent les confréries apparaît comme un symbole rassembleur, je pense, et un facteur, pardon, d'intégration très très fort. Et la formation des jeunes, hein, aussi, qui tient une part importante, hein, dans le fonctionnement des confréries, eh bien, cette formation, eh bien, permet de renforce je pense, la transmission d'un héritage qui est particulièrement apprécié. Alors, ce qui est important aussi, c'est de dire que les communautés de plusieurs villages doivent souvent s'associer, hein, pour arriver à former une confrérie. Et le chant devient alors le fer de lance et la lutte un petit peu contre la désertification rurale. Et ça contribue à maintenir un lien social entre les populations qui sont plutôt isolées en milieu rural, hein. Donc, vous voyez, pratique très vivante donc d'écologie intégrale à travers cet exemple des confréries corses que nous avons la chance d'avoir nous en héritage chez nous et qui est pour moi une pépite culturelle, voilà, et humaine considérable. Voilà. Donc, le deuxième exemple que je voudrais dont je voudrais vous parler d'écologie intégrale et de pratiques culturelles, je voudrais vous parler de la tontine. Moi, j'ai découvert la tontine avec la venue dans ma famille de Souvanie, hein. J'en ai parlé d'ailleurs dans une émission précédente. Ma petite belle-sœur laotienne que nous avons découvert il y a à peine 20 ans et qui fait partie de notre famille. Voilà, donc je la voyais régulièrement tenir des comptes quand elle arrivait, un cahier, etc. Et mon beau-père me disait, tu te rends compte, elle fait encore la tontine. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Moi, j'étais complètement naïve et ignorante de cette pratique. Et j'ai d'ailleurs appris que à cette occasion que mon beau-père en avait également profité quand il était au Laos et qu'il avait pu acheter sa maison grâce à la tontine. Alors la tontine, c'est une activité financière qui est plusieurs fois centenaire, hein, et qui est en forte expansion en Afrique et en Asie et en Amérique latine aussi. Et c'est une opération qui est parallèle à tout système bancaire, qui est traditionnel la plupart du temps. Et puis aussi, la plupart du temps, absolument pas reconnue par les autorités en place, mais qui est toujours encadrée par un président, un vice-président et même un trésorier et un secrétaire. Voilà. Donc, c'est une pratique culturelle qui évolue complètement en marge de la réglementation en vigueur, hein. Et c'est quelque chose qui est, la pratique tontinière n'est absolument pas du tout officielle, est informelle. En ce sens qu'elle est reconnue par aucune institution formelle de réglementation, de système bancaire et de contrôle bancaire, hein. Donc, elle s'exerce souvent au sein d'association, hein. Il y a des règles de base qui sont régies par quelques écrits, mais c'est souvent la parole donnée, la confiance et la sécurité qui demeurent le ciment de ces associations. Alors, qu'est-ce que c'est de manière concrète la tontine? Eh bien, Souvani m'expliquait que donc par exemple ils se retrouvent autour, ils se regroupent une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, ils mettent ensemble un petit peu d'argent, 100 euros, ils arrivent comme ça à faire une épargne à peu près de 4 000 euros, et cet argent, eh bien, ils peuvent le prêter à des personnes qui n'ont pas du tout, les migrants par exemple, qui ne peuvent pas avoir accès aux services bancaires. Et qui rembourse avec des petits intérêts. Et à la fin des remboursements, eh bien, cette somme qui a été mise au départ par les personnes du départ, eh bien, souvent sont redistribuées. Elle est redistribuée. Donc, cette somme d'argent est redistribuée entre les personnes qui ont misé au départ. Donc, c'est à la fois un moyen de prêt pour ceux qui n'ont pas droit au système bancaire et un moyen d'épargner pour ceux qui misent l'argent au démarrage. Donc, voilà un deuxième exemple de pratique culturelle qui va vers l'écologie intégrale et qui est, c'est un exemple qui, c'est la tontine, je pense qu'elle est largement méconnue dans les pays développés, mais elle joue un rôle croissant dans les pays en voie de développement. Hein. Donc, chez les migrants, donc c'est toujours ça, je le tiens encore de ma belle-sœur, chez les migrants, chez les personnes qui arrivent et qui sont dans des camps de réfugiés en attendant de trouver, d'être insérés, etc. Eh bien, c'est un moyen très prometteur, je pense, hein, très prometteur pour permettre à ces personnes-là, eh bien, de retrouver un lien social et d'avancer dans leur nouvelle vie. Voilà. Donc, ces deux exemples, voilà, de culture, aussi bien la pratique des confréries chez nous en Corse que la tontine. Qui sont pour moi des exemples magnifiques d'écologie intégrale à partir des pratiques culturelles d'un pays.
Très bien, Adeline, merci.
La vie avant tout, une chronique d'écologie intégrale en compagnie de Dominique Vachald et de ses invités.